reprend la page Tzadik Bet, on est Siman Chavzaïn, Seivet, donc chapitre 27 et Alakha 2, première ligne en haut de la page. Aminhag Anachon, le minhag, donc le bon minhag, ça veut dire c'est une bonne habitude. Ça veut dire, le Shulchan Aruch pense que c'est un minhag, mais le Mishnah Brura dit qu'en vérité, il amène le commentaire du Gaon de Vilna qui dit qu'a priori, c'est pas seulement un minhag, c'est ce qu'on appelle Midina de Gemara. C'est-à-dire que ce qu'on va dire maintenant, il y a des preuves de la Gemara. Enfin, des preuves cachées, mais il y a des preuves de la Gemara. Alors, c'est quoi ce minhag? Sheyhe ayud shel kesher tfila, shel yad, le tzad alev. Donc, le bon minhag, c'est que le yud du nœud des tfilines, de la main, bien sûr, doit être le tzad alev, doit être face au cœur. Le yud doit être face au cœur. Parce que techniquement, le yud peut être dans tous les sens. On peut le tourner comme on veut. Oui. Techniquement, le yud, il aurait pu être de l'autre côté. Va tfila alav, le tzad chutz. D'accord. Deuxième minag aussi qu'on a l'habitude, c'est que donc vatfila lav le tzatrout, ça veut dire que et en, donc dessus sur le yud on fait passer enfin sur le yud sur le nœud on fait passer donc la lanière, mm-hmm. D'accord, et la lanière qui va vers l'extérieur. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on met les tefillin. J'ai remarqué toujours on tourne vers l'extérieur. Mm-hmm. Alors il y a des cas dans lesquels on tourne pas vers l'extérieur. Si par exemple si c'est un gaucher qui est dessus de droitier, dans ce cas-là, on verra après qu'est-ce qu'on fait. Mais normalement, il y a deux choses. Les deux choses qu'on vient d'expliquer, c'est que tout d'abord, le yud soit face au cœur. Et deuxièmement, c'est qu'on entoure vers l'extérieur. Yesh l'Isaer, une deuxième chose qui nous dit sur Shulchan Aruch aussi, et ça c'est basé sur le Zohar. Dans le Zohar, Parashat Pinchas, voilà, on arrive bientôt à Parashat Pinchas. Dans le Zohar, il explique que ça, c'est ce qu'on va dire, c'est très grave. Si on fait pas attention à ça, c'est très grave. Alors, c'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit, Yesh l'Isaer, faire très attention. Chez le Tazouz, Yud, chez la Kesher, mais à Tfila.
Dans le Zohar, on fait paracha par paracha dans le Zohar?
Non. Le Zohar, enfin, c'est les imprimeurs après qui ont classé ça par paracha.
D'accord, ah ouais.
Ouais. Alors, dans le Zohar, c'est écrit qu'il faut faire très attention que le Yud du nœud ne bouge pas de Tfilin. C'est toujours attaché. Alarchiquement parlant, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais c'est Alpi Kabbalah, c'est très grave que le Yud se détache. C'est pour ça que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on l'attache de manière à ce qu'il ne bouge pas. Quand on l'a bien attaché, il ne bouge pas. Ouais. Mais sinon, quoi qu'il en soit, il faut s'assurer, selon tous les avis, il faut s'assurer que le yud ne se détache pas des tefillin. D'accord ? Ça, c'est le Pikabala. Alors, il dit que, le Mishnah Moura, il raconte, il dit qu'à son époque, il y avait des gens qui avaient l'habitude d'attacher le yud avec un fil à la haute filine. Carrément pour s'assurer qu'il ne se détache pas. Mais il dit qu'il faut enlever ce minhag. Il dit qu'il faut arrêter ce minhag. Parce que, bon, il dit que dans ce cas-là, il y a un problème. Ça pose un autre problème. C'est-à-dire que pour bien faire, on a mal fait. Donc il dit, il faut juste s'assurer, on fait ce qu'on peut, et après, bon, on fait se rattacher à ma kadosh baruch hu il aide. On fait ce qu'on peut pour que le yud soit toujours collé au tefillin. Ensuite, alakha gimel. Aminhag anachon, aussi un autre bon minhag. Les taken, il faut arranger, il faut s'assurer. Shama varta sheba retsua overet, tere munachat le tzad akatef, veaktitsa le tzad hayad. Alors, deuxième chose qu'il nous dit ici, voilà, il faut s'assurer aussi, le bon minag, que, donc la ma avarta, c'est quoi un ma'avar en hébreu?
Un passage,
très bien. Donc quel passage on a dans les tfilines? Il faut me mentir, tu sais très bien qu'il y a des tfilines. Je vais t'emprunter des tfilines une petite minute. Alors regardez, vous avez les tefillin.
Oui, ça va.
D'accord. Vous avez les tefillin. Et dans les tefillin, vous avez, il y a... Attends, je vous montre à Julien. Il y a un endroit dans lequel la lanière, elle passe à l'intérieur des tefillin et elle fait le tour des tefillin. Regarde.
Vous voyez ici, là, la lanière, elle rentre ici, elle sort de l'autre côté. Elle passe à l'intérieur, elle passe comme dans un style de tunnel.
Ce tunnel en hébreu, ça s'appelle le Ma'avarta. Ma'avar, un passage. C'est bon? Donc... Aminhag anachon, le bon minhag, il est l'étaken de s'assurer. Sha ma'avarta she baretsu overet. Que la ma'avarta, ça veut dire donc le passage sur lequel les tefilines sont posées. Te munachat le tzad akatef, qu'elle soit posée. Le tzad akatef, ça veut dire. Bon, je t'aurais emprunté tes tefilines encore, mais. Ah, tu les as, ils sont toujours là. Donc, elle soit posée le tzad akatef. Alors, encore une fois, comment on met les tefilines aujourd'hui? Aujourd'hui, on met les tefilines de manière à ce que ce tunnel, il est posé vers l'épaule. Techniquement, on aurait pu la mettre de l'autre côté. Comme par exemple, je vais expliquer le cas du, d'accord, le cas du gaucher. Le cas du gaucher qui a que des tefillines de droitier. D'accord, donc techniquement, on peut les mettre de l'autre côté. Alors, on a le droit de les mettre de l'autre côté de manière à ce que le tunnel est vers le bas. ça serait kasher. Mais, encore une fois, il nous dit, le bon minhag, c'est quoi? Le bon minhag, c'est de le mettre de manière à ce que le tunnel soit vers le haut. D'accord? Donc le tunnel soit vers le haut. Ve'aktitzal et tzadayad. Alors ça, en hébreu, vous voyez la deuxième partie, de l'autre côté des tefilines. D'un côté, on a le tunnel, et de l'autre côté, on a un petit dépassement, comme ça, un rebord. Alors en hébreu, ça s'appelle une ktitza. D'accord? Ktitza, c'est comme à l'époque, dans les murs, des fois, on avait des pierres qui ressortaient. D'accord? Et on appelait ça une ktitza. On voit ça dans la Gemara Bababatra. Un rebord.
Pour montrer des propriétés.
Pour
montrer les propriétés.
C'était pas que pour ça, c'était pour poser des objets des fois. Ouais. Il y avait plusieurs raisons. La Gemara Bababatra, c'était pas pour ça, c'était pour poser des objets.
Qui appartient le mur.
Ouais. Donc ça s'appelait une ktitza. D'accord? La Gemara là-bas, la Mishnah parle de ktitin. C'est ça. Donc, encore une fois, d'un côté on a Ma'avarta. Ma'avarta, c'est le passage, le tunnel. Et de l'autre côté on a ktitza. Donc il faut s'assurer normalement pour que le tunnel soit vers la Ma'avarta soit vers le haut et la ktitza soit vers le bas. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis gaucher? D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je suis gaucher et j'ai pas de tefilin de gaucher? Parce que vous savez que dans les tefilin de gaucher, le nœud est fait différemment. Le nœud est fait d'une manière que le yud arrive face à son cœur.
D'accord.
Regardez. Imaginez-vous que je suis gaucher, que j'ai mis les tefilin à la droite. Le yud, il est dirigé vers quoi?
L'extérieur.
Là, il est dirigé vers l'extérieur.
L'extérieur.
Eh bien, alors j'ai un problème ici. Moi, j'ai pas mes tefilin. Je prends les tefilin de quelqu'un. Mais j'ai le choix entre deux choses. Soit je les mets comme ça et dans ce cas-là, le tunnel il sera vers le haut, mais le yud il sera vers l'extérieur. Soit je les retourne. Et là qu'est-ce qui va se passer? Le yud il sera vers le cœur, mais le tunnel il sera vers où? Vers le bas. Et à part ça, les tefilines aussi je les mettrai forcément. Je vais entourer la lanière non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Alors qu'est-ce que je fais?
Ça tient pas bien en plus.
Et ça tient pas bien, exactement. Oui c'est vrai, ça tient pas bien.
Ah oui, ça c'est pas bon comme ça.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Il faut faire des filets pour...
D'accord, mais il les a pas. Un jour, finalement, il les a pas.
Il met à droite.
Vous avez compris, je répète la question.
Oui.
C'est soit on privilégie le fait que le tunnel est vers le haut et on tourne vers l'extérieur. Alors, le Biur Halakha dans le Mishnah Berurah ici, il en parle. Mais a priori, la conclusion, c'est qu'on privilégie le yud. On privilégie le yud et qu'il faut que le yud soit vers le cœur. Donc, quitte à inverser les filets, etc. D'accord. Quitte même à tourner du mauvais sens, c'est pas de problème. Le yud est le plus important. On est d'accord? Tiens, tu peux en prendre. Bon, quoi que laisse-les ici, on ne sait jamais. Hein. Alors, ça c'est un deuxième point. D'accord? Donc on a parlé du yud, on a parlé du tunnel. D'accord? Donc, de manière optimale, le yud vers le cœur, le tunnel vers l'épaule.
Le rebord.
D'accord? Et le rebord vers le bas, bien sûr. Ensuite, il continue. Il dit, Lo yehedava chotset ben tfilin lipsaro. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui interfère, qui coupe, qui sépare entre les tfilin et la peau. D'accord? Donc pas de chemise, pas de... Enfin, je sais guimel, je suis là.
Pas de tatouage.
Non, on n'a pas parlé de tatouage. Alors, attention. Dans le bras, c'est relativement facile. Mais dans la tête, ça va compliquer. Donc, lo shnashel yad, lo shnashel rosh. Ça change pas. Ni pour la tête et ni pour le bras. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui sépare. Bon, donc je vous dis...
Regardez une chemise, quoi.
Sur le bras, c'est relativement facile.
Ouais.
D'accord? C'est relativement... Alors, de quel endroit on parle? On parle principalement de l'endroit dans lequel on pose les tefilines. Mais maintenant, la montre... Qui c'est qui va faire les croissants?
Lionel.
Lionel, t'as pris un abonnement, hein? Mais servez-vous. Julien, qu'est-ce qu'on te sert? Croissant, pain au chocolat...
brioche.
Comment
brioche?
Il a pris le café sans sucre, il a voulu le sucré. C'est comme ceux qui prennent le Coca-Cola Light au McDonald's. Avec un bon hamburger.
Mais c'est question de goût là. Pourquoi?
C'est vrai, non, c'est pas le Julien, il voulait pas, il a pris sans sucre. Merci. J'avais pas compris. Désolé d'avoir dérangé un Cohen. Alors, encore une fois, ça m'arrive des fois quand je mets les tefilines aux gens, ça arrive des fois que les gens n'ont pas envie d'enlever la montre.
Ah ouais?
Oh, ils ont pas envie, ils n'ont pas le temps, ils ont pas. Est-ce qu'on doit enlever la montre?
Normalement, oui.
Alors, normalement, on doit enlever la montre, mais c'est pas obligé.
C'est-à-dire
que le concept de chatitza, c'est uniquement en haut. C'est là que le problème se pose. Mais écoutez bien le problème. Le problème, c'est que, et pour le bras, et pour la tête. Alors, pourquoi ça pose un problème pour la tête? Parce qu'il amène ici, dans le Mishnah Berurah, il amène ici ce qu'il dit le Machatit HaShekel. Il dit que, ceux qui laissent, ceux qui laissent pousser les cheveux et qui laissent pousser ce qu'ils appellent blorite, ça veut dire une grosse coupe, de manière qu'ils aient vraiment beaucoup de cheveux. D'accord ? Il explique ici, il dit qu'a priori c'est un problème. Quand il y a trop de cheveux.
Ah oui ?
Pourquoi c'est... Ah oui. C'est pour ça que dans le monde, c'est pour ça que dans le monde orthodoxe on fait attention à ça. Parce qu'il dit, bon, c'est un avis, hein.
Ouais.
Il dit parce que ça pourrait être considéré comme une ratita. Ça pourrait être considéré comme une coupure. D'un côté oui, d'un côté non. D'un côté non, parce que étant donné que ça fait partie de,
du corps,
donc de ma chevelure, donc c'est pas une coupure. Et d'un autre côté, il y a des avis qui pensent que, étant donné que c'est pas normal, enfin, peu importe c'est normal ou pas, étant donné qu'il y a trop de cheveux, c'est considéré une coupure.
Donc
c'est pour ça.
Ils sont très poilus.
Non, non, je parle de...
Non, mais là, quelqu'un qui serait très poilu...
Oh, c'est naturel, c'est pas que je qu'on laisse pousser.
Je suis aussi...
Là, les cheveux, tu peux les couper. Les poils, tu vois, il faut t'épiler.
Il y a les cheveux, et il y a la barbe. Alors c'est soit on laisse pousser, la barbe, on coupe les cheveux, soit on laisse pousser les cheveux et on coupe la barbe.
C'est comme ça. Cheveux longs et des courts.
Bon, voilà, je vous dis, c'est la raison principale. C'est la raison principale pour laquelle dans le monde orthodoxe, on fait attention à ça. On laisse pas pousser les cheveux longs.
Vous
d'accord. Donc pour deux problèmes. Premièrement, parce qu'on considère qu'il y a un concept d'orgueil. C'est un peu orgueilleux. D'orgueil. On voit que Yosef HaTzadik, quand il était jeune, il a laissé pousser ses cheveux, on dit qu'on lui a reproché. On dit que c'était un petit peu un signe de gave, d'orgueil. À son niveau, on lui a reproché.
Il faut couper les mèches, quoi.
D'accord.
Un religieux, il doit pas avoir de mèches.
Il n'a pas de longs cheveux. Bon.
Non, devant. Derrière, s'il veut, ça ne le gêne pas.
Oui, oui. C'est vrai que c'est principalement devant. Oui, mais bon.
Vous
avez déjà vu des gens qui coupent devant.
Pour les téfilines, c'est justement que ça pose un problème.
Ouais.
Cheveux longs derrière, ça ne gêne pas.
Non.
Bon, voilà, pour vous dire. C'est la raison principale pour laquelle on laisse pas pousser les cheveux. Donc, l'oshna shel yad, l'oshna shel rosh.
Ceux qui ont des perruques, les
moumous. Ah, ça, on va en parler, les perruques.
Ah oui.
Ouais. On va en parler. Les perruques, c'est trop chaud.
Ah, ils ont pensé à tout. Moi,
maintenant, bien sûr, aujourd'hui, le plus important, c'est déjà de mettre les tefillines. Après, on verra les détails. Bon, après, si on peut progressivement, on rajoute. Mais Dafka Bitfilin. Maintenant, il nous dit, c'est Dafka Bitfilin. Ça veut dire, ce principe-là est valable surtout sur les tefillines. Ça veut dire, sur ce qu'on appelle les tefillines, c'est quoi? C'est le boîtier. Aval beritsuot, en lakpit. Mais sur les retsuot, sur les boîtiers, en lakpit, c'est-à-dire, c'est pas grave, c'est une coupure. C'est pour ça que quand il y a des gens qui ont un plâtre, par exemple, la première question qu'on leur pose, on leur dit, est-ce que tu peux poser les tefillines, mais le boîtier, sans problème, sur le bras? S'il peut le poser sur le bras, même si après, pour passer sur le bras, même si après pour les lanières il devra passer au travers d'un plâtre, il n'y a pas de problème. Parce que le principal problème de Khatita, c'est uniquement au niveau du boîtier. Au niveau ce qu'on appelle la tefila. Tefila en hébreu, donc c'est le boîtier. Alors, le Mishnah Brura, d'accord, le Mishnah Brura parle du cas de la perruque. D'accord. Il parle du cas de la perruque. Alors, écoutez bien, je vais vous dire ce qu'il dit à l'oral. Il dit là-bas qu'il y avait des gens qui avaient parouka. Hein, paroka, c'est quoi paroka?
Perruque.
Paroka, comme ça il dit. Péanochit anikret paroka. Venez, on va le lire.
C'est où, je vois pas.
Voilà, je vais vous montrer. Vous prenez le numéro Tetzain du Mishnah Brura.
Tetzain,
oui.
N.
N lakpid. Vous avez un peu à peu près au milieu du Mishnah Brura. Ici. Ah, voilà. Il dit, Ve'acharonim katvu, de N lakel, rak mimkom akrichot, aval, Mash shayach lakshira, yesh le achmir, av birtsuot, ben beshayad, ben beshel rosh. Donc, les acharonim ont expliqué, d'accord, qu'il faut faire, que, même si, alachiquement, on a expliqué qu'il n'y a pas de problème de khatitsa dans le reste du corps, de tefilin, c'est uniquement au niveau où on pose le boîtier, mais les acharonim disent, les décisionnaires disent qu'il faut s'efforcer quand même de faire attention dans tout le corps, donc c'est pour ça que on préconise d'enlever la montre pour pas avoir de khatitsa. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Veket vu tochachat megula, ils ont écrit un reproche à la manichim tfilin al gabe peanochit, sur ceux qui posent les tfilin, sur une peanochit, donc sur une perruque, anikra farouka, qui est appelée la perruque.
Ah ouais, d'accord.
Donc apparemment, il dit que c'est un problème.
Ça, c'est le mot européen, perruka.
Va filou, imarakaretsua, mounach à la peanochit. Maintenant, écoutez bien, même si la perruque, alors je connais pas les perruques, même s'il y a une personne qui a perdu des cheveux vers le bas de la tête et qui a mis des perruques que sur le bas de la tête. Il a mis une perruque, vous savez, une perruque custom, hein, qui est faite sur mesure, de manière à ce que devant il a ses cheveux, mais à l'arrière c'est une perruque.
Une extension, comme ça.
Une extension, voilà, oui, ils appellent ça l'extension aujourd'hui. Oui, l'extension. Oui, c'est vrai que c'est une extension qu'on met, bon, c'est les femmes qui mettent ça. Les hommes aussi mettent l'extension ?
Je pense que oui.
Ouais.
Et les hommes, comme moi, par exemple. Moi, j'en ai.
Ah, t'as mis l'extension.
Oui.
Alors. Très bien, je savais pas. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit ici que, même si les acharonim m'ont dit, que même si les lanières Même si le boîtier est posé sur la tête, mais c'est uniquement les lanières qui vont passer par l'extension, par la perruque, ils ont dit qu'il faut quand même, il faut quand même éviter. Néanmoins, ou Mikol Makom, Mashma Midivrei Magan Avraham Vachaye Adam. Néanmoins, on comprend de ce que le Magan Avraham et le Chaye Adam ont écrit, de Im Yeshlo Maka Berosho, que si une personne a une plaie dans la tête, il a un coup dans la tête, Verak Bimakom Sharetsuot Munachim Velo Bimkom Aktitsa. Mais que le pansement qu'il a posé, c'est uniquement à l'endroit dans lequel les lanières vont passer, mais pas à l'endroit où est posé le, la petite ça, rappelez-vous, c'est pas à l'endroit où est posé donc le boîtier. D'accord? Mutarlo la niar aretsuot al-gabe smartutim shal amaka ou al-gabe kova. Il a le droit de poser les lanières sur le pansement ou même sur un chapeau. L'essentiel c'est quoi? C'est que le boîtier soit posé sur la tête. Ou les barères. Et il peut faire la bracha sans problème. Ridouche.
Mais ça voudrait dire s'il a un pansement ici, il peut pas.
Il peut pas. Alors on verra après. S'il a un pansement, on verra après, ça dépendra si le pansement est plus épais ou moins épais, mais dans tous les cas, il ne fait pas de bracha. D'accord, c'est pas de bracha. Alors, c'est la même chose pour le bras. D'accord, c'est la même chose pour le bras. C'est que ce qu'il faut s'assurer, comme on l'a dit, c'est qu'il faut s'assurer que ça soit posé sur le bras. Une fois que les tefillines sont posées sur le bras, même si après ça passe par un pansement, il n'y a pas de problème. Je passe en haut à la chahé. Alors. Adam, Sheou, Alul, Linezilut. Une personne qui est sensible, Linezilut. Alors c'est quoi Linezilut? Linezilut, ça veut dire, explique le Shmish Tamura, ça veut dire c'est une personne qui attrape froid très facilement. Et que quand il se découvre la tête, il peut attraper froid très facilement. Alors ça c'est un cas d'actualité, surtout dans l'endroit où habitait le Rafet Saïd, donc en Pologne. En Pologne, vous avez des gens qui ne peuvent pas se découvrir comme ça. Et que même le fait de se découvrir la tête, on va mettre les téfilines, ils risquent d'attraper
bien
froid.
Sûr, le cerveau, ouais.
On est d'accord? Donc c'est un problème.
Tu fais très froid.
Donc une personne comme ça, comment il met les téfilines?
Il met les téfilines, il remet la tête, non?
Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors écoutez bien, il va citer plusieurs cas. Adam Sheou Alul Inezilut. Un homme, donc, qui risque d'attraper froid. V'imit tarech la niar tfila shel rosh al betsaro. Lo yenichem klal. Et si on lui demande de mettre les téfilines de la tête directement à même la peau, il ne les mettra pas. Parce qu'il risque d'attraper froid. D'accord, c'est une personne, il risque d'attraper froid, il n'a pas le droit de se lui couvrir la tête. Pardon ?
C'est vital.
C'est vital, exactement. Alors, Yesh le attire l'eau, on peut lui permettre, le aniart filash el roche à la kova.
Je passe à la page suivante.
Oui, je passe à la page suivante. On peut lui permettre, et peut-être avec ça on aura une permission pour ceux qui ont les cheveux longs aujourd'hui, bon, vous verrez pourquoi. Yesh le attire l'eau, le aniart filash el roche à la kova. On peut lui permettre de mettre les tefilines chez le roche à la kova sur le chapeau. Ah, pourtant sur un chapeau, mais attends, ça sourd. À la kova dak à samour la roche, donc sur un chapeau à samour la roche qui est près de la tête. Ça veut dire qu'on va mettre, il va mettre un chapeau qui est un peu stretch comme ça.
Dak, il dit.
Dak, oui.
Fin,
mais qui est stretch, ça veut dire qui est samour la roche, qui est bien collé à la tête.
Abonné.
Et regardez bien, il va mettre les téfilines dessus. Maintenant, pour pas que les gens vont le voir, vont dire ah comment il a pu mettre les téfilines, etc. Pour pas qu'on se passe et lui poser trop de questions, on lui demande néanmoins de veiller chassem mipnei aroim, de recouvrir ses téfilines.
C'est pas plutôt un bonnet?
C'est un bonnet. Donc il a un bonnet. Sur ce bonnet, il met les tefilines. Et sur ce tefilines, qu'est-ce qu'il met? Il met encore un chapeau pour pas qu'on lui prenne la tête. D'accord?
C'est lui qui décide que s'il enlève son chapeau ou il faut un avis médical.
Non. L'avis médical, c'est pas compliqué. Il dit que. C'est pas compliqué. Il dit que s'il les met pas à même la peau, s'il les met à même la peau, il les mettra pas. Voilà.
Alors c'est lui qui décide.
Ah non, c'est un médecin qui l'a dit apparemment.
Mais il doit savoir que dès qu'il fait ça,
il va attraper froid. Ah, il n'a pas envie de couvrir la tête.
Ça, hein.
Il sait que partout où il va, il doit toujours se couvrir la tête.
C'est un rhume. Donc le nez qui...
Ouais. Il doit être allergique.
Les ziloutes, oui.
Les ziloutes, c'est un nez qui coule.
Oui.
Rhume
à répétition. Les ziloutes, c'est un rhume.
C'est un rhume.
Mais là, apparemment, dans le sens du Shulchan Aruch, les ziloutes, ça veut dire quelqu'un qui attrape froid très facilement. On parle pas forcément de rhume, on parle de quelqu'un qui attrape froid très facilement. Donc selon les Ashkenazim, rappelez-vous, les Ashkenazim font deux brachot sur les tefilines. Une bracha sur le bras, une bracha sur la tête. Donc celui qui met les tefilines avec cette méthode-là, c'est-à-dire qu'il met les tefilines sur un chapeau, et je sais qu'on m'a raconté qu'en Russie, il y avait des gens qui mettaient les tefilines comme ça des fois dans des cas extrêmes. Ils mettaient les tefilines comme ça, ça veut dire, ils mettaient donc sur un chapeau, Dans ce cas-là, ils ne font pas la bracha sur le tefilin de la tête. Nous, de toutes les façons, on ne fait pas la bracha sur le tefilin de la tête. La question ne se pose pas. Mais si les Ashkenazim, la question se serait posée, on leur demande de ne pas faire la bracha sur le tefilin de la tête.
Nazir, c'est le même mot, tu crois?
Ah, maintenant on va parler du gaucher. Pardon?
Nazir, c'est le même mot, nazir?
Que nos ailes, non?
Non, non, c'est pas le même principe.
Et s'il fait si froid, même pour le bras?
Pour le bras, oui, pour le bras. Alors, effectivement, effectivement, le Mishamura en parle, il dit que pour le bras, il y a toujours la possibilité de couvrir. On peut toujours couvrir, on peut mettre un pull juste à couvrir. La question se pose pour la tête. Parce que pour la tête, on peut pas le couvrir. On peut pas couvrir. Une fois qu'on a mis les tefillines, si on met les tefillines à même la tête, forcément, il y a un vent qui passe.
Il ne doit pas cacher le boîtier.
Celui-là, il doit cacher. Celui qui a fait ça, il doit cacher. Mais là, on fait encore une halakha. On parle du gaucher. D'accord. Qui c'est qui est gaucher ici? Quelqu'un est gaucher? Personne n'est gaucher. Bon. Alors.
Mon fils est gaucher. Pour avoir besoin d'être obligé de laisser.
Alors, le gaucher. Qu'est-ce qu'on considère un gaucher? Qu'est-ce qu'on considère un gaucher?
Celui qui écrit la main gauche.
Attends, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec la main gauche. Moi, par exemple, j'utilise la main gauche et la main droite de la même manière.
Bidextre.
Mais à part pour écrire.
Ah bon?
Mais pour tout le reste, pratiquement la même chose. Il y a même des choses pour lesquelles j'utilise mieux la main gauche que la main droite. Vu que je suis en France comme ça.
Au tennis aussi?
Je joue pas au tennis, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait?
À la boxe.
D'accord. La main droite ou la main gauche? Qu'est-ce qu'on suit? Non mais qu'est-ce qu'on suit? C'est quoi le critère?
Quelle est la priorité quoi?
C'est la main avec laquelle on fait
ce qui est le plus courant. C'est la droite.
Ah, donc normalement, vous avez raison, normalement on aurait dû suivre ce qui est le plus courant.
Voilà.
On va voir. Alors, regardez bien. Iter Yad Yemino. Donc une personne, et on finit avec ça. Une personne, donc Iter Yad Yemino, ça veut dire, Iter en hébreu, ça veut dire un gaucher. Imose Kol Melarto Bismolo. Si il fait tout ce qu'il fait avec sa main gauche, ça veut dire qu'il utilise principalement la main gauche. Dans ce cas-là, Maniar Bismolo, il met les tefilines à sa gauche, donc sa gauche, c'est la main droite. D'accord? Parce que la Torah nous demande, comme on l'a dit avant, de mettre sur la main faible. Comment on va dire tout de suite après aussi? Encore une fois, je vais répéter. Donc, Maniar Bismolo, Shehi Yemin Shel Kol Adam. Il doit mettre les tefilines à la main gauche, qui est la main droite de tout le monde. Im Sholet Bishtei Yadav. Si maintenant, il maîtrise les deux mains, Okertov, s'il maîtrise les deux mains, ça veut dire que il utilise la main droite comme la main gauche, dans ce cas-là dans laquelle il met.
Moi je pense qu'il le met sur la main gauche.
Sur la main gauche. Parce que là, dans ce cas-là, bah, tant qu'à faire, Maniar Bismolo que la dame, il met dans la même, dans la gauche de tout le monde. Maintenant. Ve'im kotev bimino ushar kolmasa vose bismolo. Maintenant imaginez un cas comme ça, une personne qui est gaucher. Un vrai gaucher. Mais quand il était à l'école, et ça c'est des cas qui existent, on l'a forcé à apprendre à écrire avec la main droite.
Mon père, c'est le cas. Mon père, mais il est gaucher.
On a des gens comme ça.
Il
faut savoir qu'à l'époque, il y a des gadénettes, enfin des. Qui n'acceptaient pas le fait qu'on pouvait écrire avec la main droite, avec la main gauche. Ils forçaient les gens à écrire.
Avant que c'était gaucher.
Ah, d'accord. Vous connaissez souvent des gens comme ça. Aujourd'hui, on accepte. Aujourd'hui, il faut attention à ça à l'école. Aujourd'hui, il faut attention. Et dès qu'il voit qu'il utilise un peu plus la main gauche, il. Par exemple, mon fils est gaucher. Mais depuis que les petits, on a remarqué.
Oui, tout de suite.
Tout de suite, on voit.
Il n'y avait pas de psychologue à l'école à notre époque.
Non, la psychologie, c'est pas un problème.
Et pas la main droite, qu'est-ce que tu racontes?
La règle.
Et si vous prenez ma gauche, on te mettait la règle. Vas-y, quelle psychologie?
Alors, Bim, côté Bimino, si maintenant une personne, écoutez bien, si maintenant une personne écrit avec la main droite, Ushar kol ma'asav osé bismolo. Donc, il écrit avec la main droite, mais tout le reste, il fait avec la main gauche. Donc, c'est un vrai gaucher, en vérité. Ou bien, kotev bismol, ou bien une personne qui écrit avec la main gauche, parce que il voulait être un peu différent des autres quand il était enfant. Il dit, moi, je suis gaucher. Mais en vérité, c'est un droitier, il fait tout avec la main droite. Ushar kol ma'asav osé biyamin, mais tout le reste, il fait avec la main droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Yesh omri, il y en a qui disent, sheyani art filin, baya, tu tâches que
le premier met à gauche.
Il y en a qui disent que, comme ce qu'a dit M. Benichou, disent qu'il faut suivre la main, qui est vraiment la main la plus faible. Donc la main la plus faible, peu importe la main avec laquelle tu écris. Et imaginez-vous, il s'est habitué à manger avec la main gauche. C'est pas mes affaires. Ce qui compte, c'est la main la plus faible. Donc la main la plus faible.
Il met à droite.
Alors attends. Marloquette. Il y en a qui disent, encore une fois, que on suit la main la plus faible. Donc, même si c'est habitué à écrire à la main droite, si sa main la plus faible, si sa main la plus faible, c'est la main droite, donc il met les filines sur la droite, façon la gauche. peu importe, même s'il écrit avec la droite, c'est pas nos affaires. Veyesh Shomrim, encore une fois, pourquoi il dit ça eux? Deba inan yad keha. Vous vous rappelez ce que je vous montrais la dernière fois? Dans la paracha qui parle des téfilines. Passe-moi le patario, s'il te plaît. Merci.
Il y en a beaucoup qui sont gauchers.
Alors c'est quelle page? Voilà. Je t'en mets pile dessus. Page 8, regardez. Veaya leot aliadecha ultotafot ben anecha. Donc on dit que les téfilines seront en signe sur ta main. Et, d'accord, également en tant que, c'est vraiment la traduction, c'est phylactère. Ben anecha entre tes yeux. Alors yadecha ici, c'est écrit de manière bizarre, on l'a déjà dit. Yadecha ici, regardez. C'est écrit yud dalet raf he.
Ouais.
Il y a un he en plus à la fin. En hébreu, c'est écrit pas comme ça, il y a un he en plus. Non, il n'y a pas de he. D'ailleurs, dans le schéma, d'accord? Dans le schéma, il n'y a pas de he à la fin. Il n'y a pas de he. Qu'est-ce qui fait ce he ici? C'est un remez, c'est les chachamim m'ont appris d'ici, que yad, il faut couper le mot en deux. Yad, keha. La main, keha, keha, ça veut dire, alors kehe en hébreu, ça veut dire clair. Vous savez, il y a clair et foncé. Quand vous voyez une couleur claire, on dit keha, faible. Donc kehe, ça veut dire clair, ça veut dire également donc faible, la main faible. Donc, dans notre cas du gaucher, rappelez-vous, on a un gaucher ici qui écrit, un vrai gaucher, mais qui écrit avec la main droite. Il y a un premier avis qui dit, c'est vrai qu'il écrit avec la main droite, mais étant donné que yad keha, sa main faible, c'est la main
droite,
donc dans quelle main il doit poser les tuilines? Main droite? Peu importe, il s'est habitué à jouer au foot avec, c'est pas mes affaires. Sa main faible, c'est laquelle? La droite, il met dans la main droite. Veyesh Shomrim, il y en a qui disent, Shayat Shekotevba, Hi Hashuva Yamin. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que la main la plus importante, c'est la main avec laquelle on écrit. Pourquoi?
Non.
Pourquoi on accorde l'importance à l'écriture?
On va se
faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'écriture? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'écriture? Alors le Mishnah Berurah il dit, c'est parce que dans le schéma on dit Ukshartam, Leotaledra, etc. On dit Urtaftam. D'accord? Regardez. Dans le schéma. Voilà. Dans le schéma, on dit Ukshartam Leotaledra Velotafat Benedra. Urtaftam Amelzo Betecha Visharecha. Donc on nous demande d'attacher les téfilines. Et juste après on dit tu écriras sur les mezuzot. Alors on a Ukshartam et juste après on a Urtaftam. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que pour savoir la main dans laquelle tu as attaché les téfilines, base-toi sur quoi? Sur la main avec laquelle tu écris. C'est un remède, ça aussi, c'est une autre allusion.
Ça a l'air intéressant.
Donc, il y en a qui disent que on suit la main avec laquelle on écrit. Même si je suis un vrai gaucher, je suis la main avec laquelle j'écris.
Oui, parce qu'on a été forcé d'écrire D'accord. la main droite. Ah, donc, naturellement, tout le monde fait ça.
D'accord. Je suis la main avec laquelle j'écris.
Naturellement, tout le monde fait ça.
Bah, on dit des gauchers.
Donc, veillez Shomrim, Shayat Shekotev, Vahi, Hashuva Yami, Leinenze, Umaniar Tfilin, Beyat Shekinegda. Il y en a qui disent qu'on suit la main avec laquelle on écrit. Alors on fait quoi? Il y en a qui disent, on fait quoi?
Ça me semble logique.
Non, mais la main qui écrit, si on a forcé...
C'est plus naturel.
Non, si on a forcé la personne à écrire la main droite alors qu'il est gaucher...
D'accord.
Alors... Oui, mais c'est tout ce qu'il fait, par exemple, mon père. Tout le reste, il plante un clou, il fait tout ce que tu veux, il n'a jamais utilisé sa main droite. Juste pour écrire.
Maintenant, il y a une marloquette, écoutez bien. Non, ça va se corser encore plus. Il y a une autre marloquette. Quand on dit savoir écrire, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens, que étant donné qu'ils sont, en vérité, ils sont gauchers, même si on les a appris à écrire avec la main droite, mais ils écrivent mal. Ils écrivent mal, ils savent pas écrire.
Il écrit pas bien.
On voit que c'est forcé. Alors, il y en a qui disent qu'il faut être capable d'écrire une écriture de Sefer Torah Tfilin et Mezuzot. Ça veut dire l'écriture de Sefer Torah.
Il y en a pas beaucoup. Alors,
non. Ça veut dire que c'est la main qui écrit le mieux.
La calligraphie.
Voilà. Calligraphie, si vous voulez. Il y en a qui disent, ça c'est le bureau à la Chagira.
D'accord. Donc là, ça remet en cause.
Parce que eux, ils disent, attends. Tu me dis Ukshartam, Urtaftam, mais dans le Pasouk, Urtaftam, on écrit quoi? On écrit les Mezuzot. il faut aller jusqu'au bout. D'accord? Alors on fait quoi? D'accord, on fait quoi dans les faits? Alors le Rama, il dit entre parenthèses, il dit Ve'achinahu. Il dit que chez les Ashkenazim, le Minhag est de suivre la main avec laquelle on écrit. Et a priori, c'est un Minhag qui est répandu chez les Sfaradim aussi aujourd'hui. De suivre la main avec laquelle on écrit. D'accord? A priori, à condition qu'on écrit bien. À condition qu'on écrit bien, on suit la main avec laquelle on écrit. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Mais sachez qu'à la base, il y a une marloquette. Ça veut dire un gaucher qui écrit avec la main droite, que avec la main droite, et qui écrit vraiment bien. Bon, parce qu'il a appris, il écrit bien. C'est une marloquette, mais le Rama nous dit qu'a priori, aujourd'hui, on suit ce minagla. Ça veut dire
c'est un usage qui est compris partout comme ça. On dit gaucher parce qu'il écrit avec la main gauche.
Aujourd'hui, on sait que c'est faux.
Je sais bien, mais non, c'est la référence de tout le monde.
Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on sait que c'est faux. On sait qu'il y a des gens qui écrivent avec la main droite, mais en réalité, c'est décoché.
Mais pour certains, c'est même difficile de le mettre, de se servir de la main droite pour ne serait-ce que nouer le téfilin.
C'est pas leur main.
Pas leur main du tout. C'est comme moi, j'arrive peut-être pas à nouer de la main.
Il y a toutes sortes de réflexes, toutes sortes de réflexes qui changent.
J'ai réflexes conditionnés. Essaye maintenant de le mettre à droite, tu vas voir.
D'accord. Bon. Donc en tout cas, a priori, la lacha est comme ça. La lacha est que on met les téfilines, que une personne qui, ça veut dire qu'une, c'est évident que s'il est gaucher et écrit avec la main gauche, la question ne se pose pas. Mais si une personne est gaucher et écrit avec la main droite, a priori, on suit la main avec laquelle il écrit. Parce qu'il y a une marque loquette. Bon, a priori, c'était tranché comme ça, on suit la main avec laquelle il écrit, mais à condition qu'au moins qu'il écrit bien. Parce que s'il écrit gribouillé, bon là, ça compte pour rien du tout. Même ça, c'est une marque loquette en vérité, mais bon. A priori, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Si on écrit bien avec la main droite, on suit la main droite. On considère que ça, c'est ce qu'on appelle un tevacheni, une seconde nature. Que même s'il est droitier, même s'il est gaucher, pardon, il a pris une seconde nature et maintenant il est devenu droitier. C'est tout.
Allez,
on s'arrête.